Ils étaient 70 environ mardi soir à Saint-Saturnin de Lucian, viticultrice, viticulteur, habitante et habitant du territoire, a assisté à la réunion d'information sur l'extension des réseaux d'irrigation baptisée 3SFM. Cette extension irriguera 700 hectares de terres agricoles d'ici mars 2025 en puisant dans le lac du Salagou. 8 communes sont concernées, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Saturnin de Lucian, Serras, Jonquière, Arboras et Montpérou. Les travaux de raccordement ont commencé, réévalués à près de 7 millions d'euros hors taxes, cofinancés par le Fonds européen agricole pour le développement rural, la région Occitanie, le département de l'Hérault et les bénéficiaires eux-mêmes à hauteur de 20%. Un peu cher, pensaient certaines personnes, si l'on en croit les réactions collectées au sortir de la réunion mardi soir, même si le projet a semblé convaincre globalement l'assistance.
Là, globalement, ils parlaient sur l'ensemble, c'était de l'ordre de 800 à 900 euros sur les 10 premières années, par hectare et par an. Donc ça fait une charge, ouais. Si tu as 10 ou 15 hectares irrigués, ça, c'est une charge importante.
Bon, moi, en général, je ne suis pas forcément trop pour le projet. D'irrigation, bon, je fais des vannes de qualité, c'est pas mon but d'irriguer. J'ai acheté une parcelle qui était déjà engagée, du coup je me renseigne sur qu'est-ce que m'attend en termes d'investissement, etc. Bon, après on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas quel impact ça aura sur la nature. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Quand on a vraiment besoin d'eau, il n'y a peut-être même pas d'eau.
Vous n'avez pas eu de réponse là-dessus ce soir?
Bon, je pense que personne n'a vraiment la réponse. Quand je vois le Salagou maintenant en hiver, c'est catastrophique.
Moi, je suis assez Saturnin. Le pays des grands vins.
Vous en pensez quoi du projet présenté ce soir?
Ben, c'est une très bonne chose. Depuis 2017, on a des cycles avec des aléas climatiques, en particulier des sécheresses récurrentes. Donc une perte de qualité importante. Nous, on est sur des zones d'appellation. Donc le rendement est limité, on ne fait pas des gros rendements. L'irrigation, c'est surtout pour le gain qualitatif.
J'étais surpris que l'utilisation est limitée à 900 m3 par hectare. Ça correspond à 90 mm de pluie par hectare. Ce n'est pas non plus complètement exagéré. C'est une bonne surprise. Ça montre quand même une certaine responsabilité dans ce projet.
Alors moi, je pense vraiment que c'est un très bon projet et que s'il n'y a pas d'eau, on va crever. Déjà, on crèvera de soif et de faim. Voilà. Pour les jeunes, pour tout, c'est bien.
Vous êtes du coup agriculteur?
Oui, à Saint-André de Saint-Gonis. Vu la sécheresse qu'on a eu ces dernières années, entre le gel et la sécheresse, c'est difficile de cultiver.
Je trouve que c'est un bon projet et puis c'est tout, quoi. Mais je ne suis pas viticulteur. Alors je suis concerné parce que j'ai trois bouts de vigne, quoi, donc je vais participer au truc, quoi, mais c'est vrai que...
Vous allez vous inscrire à l'ASA, du coup?
Oui, je suis inscrit, oui, j'ai inscrit deux parcelles de terre et tout, et puis voilà, quoi. Je pense que c'est une bonne chose, quoi. Et puis, le Salagou, il y aura toujours de l'eau, faut espérer.
ça concerne surtout des coopérateurs, etc., on ne peut pas faire sans. Après, moi, je pense que l'eau doit être là pour l'alimentaire, pas pour la vigne.
Vous êtes agriculteur?
Viticulteur.
Viticulteur, oui. Quelle commune?
Jonquière.
Moi, je trouve 300 euros, c'est cher, par hectare par an. Mais on n'a pas le choix.
300 euros par hectare et par an?
Oui, mais que les frais du canal. Et après, on met quand même presque 2000 euros d'investissement personnel, plus les frais qu'on a eus, presque 400 euros de frais de recherche. Enfin, voilà, c'est cher, mais on n'a pas le choix. Si on veut vivre, il faut de l'eau.
Bon, déjà, aujourd'hui, on a trop de vin. Il y a des programmes de distillation, etc., etc. Et en même temps, on parle d'assurer la récolte, aussi un peu sous le contexte qualité, mais ce n'est pas que ça, à mon avis. Du coup, il faut peut-être en long terme se poser d'autres questions. Après, pour les viticulteurs qui doivent en vivre, c'est compliqué.
La réunion est organisée par l'association syndicale autorisée, l'ASA du canal de Gignac. C'est elle qui a repris le projet, lancé à l'origine par la cave coopérative de Fontjoya, qui était bien représentée hier soir naturellement. Michel Christol est vice-président de la cave de Fontjoya.
Au départ, avant le projet, même il y a eu la première étude, il y avait Saint-Saturnin et Saint-Félix qui existaient encore. Et après, Saint-Saturnin et Saint-Félix ont fusionné. Mais bon, c'est Fontjoya qui a pris la suite du projet. La première étude qu'on avait fait faire à la Chambre d'agriculture, on était encore séparés.
Quelle année?
Bonne question. Il y a au moins 6 ou 7 ans.
Ok.
Ah oui, au moins. Non, mais c'est très long. Il faut d'abord initialiser le projet, dire ce qu'on veut faire, recenser les personnes intéressées, voir si les possibilités, si c'est possible ou pas. Et c'est tout ça, quoi. Chaque fois, ça retarde, quoi.
Combien de personnes sont impliquées dans ce projet aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on doit avoir à peu près 400 personnes à peu près qui seront impliquées. Plus ou moins, ça dépend. Bon. Après, ce qu'on aurait aimé, c'est vrai, avoir plus de, que ce soit plus homogène, quoi, qu'il y ait plus de gens qui.
Mais ce qu'on disait, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent des dents creuses.
Il y a 5 ou 6 ans, l'irrigation n'était pas aussi évidente qu'aujourd'hui. Quoi.
Elle est aujourd'hui évidente ?
Ah ben aujourd'hui, on voit que avant, c'était une année sur quatre qui était vraiment sèche et qui nous posait problème. Maintenant, c'est presque une année sur deux. Quoi. Voilà.
Compliqué de s'en tirer sans l'irrigation ?
Et oui, parce que le problème, c'est qu'ici, les sols sont pauvres. Alors, c'est un gage de qualité, c'est sûr, mais il ne faut, faut pas aller trop loin non plus, parce que sinon, on en arrive à ce que ça se sèche sur place et ça gêne même la qualité après. Ça met un stress hydrique que l'on retrouve dans le vin, ça sèche les vins, c'est pas bon, quoi. Il faut un minimum. Quoi. Le problème, si vous voulez, avant on avait la chance d'avoir un petit orage au 14 juillet, un petit orage au 15 août, et ça suffisait dans nos graviers pour passer le cap. Mais maintenant, du mois de mars au vendange, des fois on n'a rien, ou une averse. Et il fait souvent des averses de 2-3 mm qui ne servent à rien, quoi, si ce n'est à mouiller le feuillage. Quoi.
Vous comprenez les inquiétudes dont certaines ont été exprimées ce soir au niveau de l'environnement et de la protection de la ressource en eau ?
Alors, là où j'ai du mal, si vous voulez, c'est que quand on parle, comment on peut parler environnement quand le salagou baisse de 50 cm ? Moi, si vous voulez, quand j'étais jeune, je faisais pas mal de bateaux, j'allais faire du voilier au lac de Parelou. Le lac de Parelou, c'est un lac qui appartient à EDF. Et l'été, EDF, il continue à faire l'électricité, il ne se pose pas de questions. Et le lac, il baisse de 10-15 mètres. Et personne ne s'en émeut. Quoi. Alors que tout le tour du lac est aménagé. Il y a plein de petits bungalows, des petites maisons. Et donc, les gens sont habitués à ça et ils ne font pas cas. Ici, le lac du Salagou, pendant 30 ans, les gens l'ont vu au même niveau. J'ai le sentiment qu'ils le confondent avec la mer Méditerranée. Quoi. Et que le fait qu'il baisse, qu'il voit à 2 mètres, que l'eau est à 2 mètres au lieu qu'elle était là, ils disent « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà comment je le vois.
Beaucoup d'alarmisme selon vous ?
Beaucoup d'alarmisme, oui, parce que quand on voit les millions de mètres cubes qui sont stockés et ceux qu'on utilise pour l'irrigation, il ne faut pas oublier que les autres années, fin août, pour éviter les épisodes cévenols, ou début septembre, le lac du Salagou était ouvert pour que l'eau parte, pour le baisser, pour qu'au cas où il y aura un orage, il fasse tampon pour les inondations. Donc cette eau, je ne dis pas qu'elle est jetée, elle va aller à la mer ou aux étangs. Quoi. Mais il baissait le lac au cas pour éviter un épisode cévenol, pour éviter les risques.
Autre défi qu'il a fallu relever, les dents creuses. Le territoire couvert par ce nouveau réseau d'irrigation est clairsemé et il a fallu convaincre les propriétaires de parcelles non irriguées de laisser passer les tuyaux des voisins. Céline Hugaudot, directrice de la ZAD du canal de Gignac.
L'air de rien, on aimerait bien faire plaisir à tout le monde. Quoi. C'est... Donc voilà, ça c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, ça a été de savoir comment se raccorder sur le Salagou. Parce que initialement, on avait pris le scénario le plus défavorable, c'est-à-dire qu'on prélevait dans la Lergue. Donc ça a nécessité de créer une installation d'exor, après une station de reprise derrière. Et on a bien mis 10 mois à discuter avec le département de l'Hérault pour savoir si on pouvait se connecter directement sur la sortie de le tuyau qui descend du Salagou, qui va jusqu'à leur... installation hydroélectrique. Donc ça, on a réussi à le mettre en œuvre. Donc ça veut dire qu'on aura une eau de meilleure qualité, parce que l'eau, elle viendra du fond du lac, elle ne sera pas passée par la Lergue, qui présente a priori des problématiques de calcaire, qui pourraient encrouter les gouttes à gouttes. Donc techniquement, on est plutôt content pour le service que ça va donner aux adhérents. Et puis, énergétiquement parlant, ça veut dire qu'on aurait pu maintenir une production hydroélectrique pour le département de l'Hérault, avec de l'eau qui coulait dans la Lergue et de l'eau qu'on repompe avec une station de pompage, ça fait un peu shadow, quoi. Donc là, quelque part, le département de l'Hérault dit « Bon, bah, j'arrête de turbiner » parce que c'était aussi les choix qu'il avait pris quand on a validé le plan de gestion de la ressource en eau. Il avait dit « Moi, je maintiens de l'eau pour l'agriculture à condition de plus turbiner. » Donc ça, c'était un deal de base. Et puis, énergétiquement parlant, on est assez content de dire que à l'échelle du territoire et du bassin, du micro-bassin Lergue, eh ben, qu'on ne va pas faire les shadocks, quoi. Enfin, que quelque part, on a optimisé la mise en charge naturelle par le Salagou. Parce que vu que l'eau va nous arriver avec 6 barres de pression, Ça veut dire qu'on a juste besoin de surpresser quelque part l'eau. D'accord ? On n'a pas besoin de la pomper comme si on allait l'extraire dans la lergue et la pousser. Donc d'un point de vue performance de nos ouvrages, capacité des pompes, consommation des pompes, bah, tout ça c'est important et ça nous permet de dimensionner le projet au plus juste et le plus développement durable proof, quoi. Enfin, voilà, ouais. C'est une petite satisfaction quand même et c'est une particularité sur ce secteur-là.
Et des petites remarques justement côté environnement, des petites inquiétudes, qu'est-ce que vous répondez dans
ces... Alors effectivement le lac du Salagou aujourd'hui il a une capacité de stockage de 102 millions de mètres cubes. Je crois qu'au 31 octobre, compte tenu de la cote du plan d'eau aujourd'hui, on a encore 90 millions de mètres cubes dans la retenue. Donc voilà, ça c'est les chiffres que donne le département. Ça veut dire que quelque part avec 90 millions de mètres cubes on peut encore faire satisfaire un certain nombre d'usages. Ce que disait le président, c'est qu'avec 7 millions de mètres cubes on irriguerait la totalité du périmètre du canal de Gignac. Et là ce qu'on va, les besoins, les 700 000 mètres cubes qui vont être associés à 3SFM, c'est 10 cm d'eau sur le Salagou. Ce que je pense, c'est que s'il doit y avoir des aménagements à faire pour que le tourisme soit maintenu et se passe bien sur le Salagou, ces aménagements ils doivent être possibles, ils doivent être chiffrables. Et il suffirait de les écrire. S'il faut un ponton un ponton flottant sur les installations nautiques, pour que les activités nautiques se passent bien et que les touristes puissent continuer d'accéder au bateau sans avoir des marches de 3 mètres de haut à descendre, et ben, pour moi, ça fait partie de la relation gagnant-gagnant qu'on doit pouvoir avoir sur ce lac. C'est-à-dire, l'agriculture a besoin d'eau et on lui dit que potentiellement, il y a la ressource qui est disponible. Ça nécessite des aménagements pour le tourisme. Ben, à ce moment-là, on chiffre les aménagements qu'il faut pour le tourisme. On fait en sorte que pour le tourisme, l'activité, elle se passe bien et qu'elle perdure, tout en ayant la possibilité pour des agriculteurs de continuer de vivre aussi de leur métier. Et puis finalement, les touristes s'y viennent, c'est parce que les paysages sont beaux, parce qu'ils sont entretenus par des agriculteurs. Enfin, il y a possibilité d'avoir une relation gagnant-gagnant et que le combat touriste contre agriculture, c'est pas un vrai débat. Enfin, et puis l'eau potable, il y a aussi une vraie répartition de l'eau et un vrai partage de l'eau sur le territoire. Je pense qu'on a tous à faire des efforts pour optimiser l'eau qu'on prélève, que ce soit les agriculteurs ou les consommateurs d'eau potable. Cet été, hein, quand on a mis en place des restrictions sur le canal de Gignac, les jours où le canal de Gignac ne coulait pas d'un certain village de la vallée de l'Hérault, il y avait double de consommation sur l'eau potable. Donc à un moment, il y a aussi des comportements à faire évoluer. Des fois, l'eau potable, c'est de l'eau à boire, mais ce n'est pas forcément de l'eau de loisir. Enfin, derrière l'eau potable, on met aussi beaucoup de choses. Derrière l'eau agricole, il faut que... Enfin, moi, je parle pour la partie agricole. Il faut qu'on soit sûr que quand on met une goutte d'eau sur une partie agricole, que ça soit une goutte d'eau optimisée et que on ait prélevé uniquement ce dont on a besoin, mais que ce qu'on prélève, ça aille vraiment à la plante et que ça aille vraiment faire ce qu'on veut à la plante pour la culture et pour la valorisation des terres qui sont ici. On a de l'eau, on a du soleil, on a des belles terres. Enfin, on doit pouvoir tous s'en sortir, quoi.
Ça a été calculé en amont ou ça va être calculé en aval de...
L'optimisation. Alors l'optimisation, nous ce qui est sûr, c'est que là sur l'extension, les 900 mètres cubes dont on a parlé par hectare et par an, c'est calculé en amont et le dimensionnement de nos réseaux est fait comme ça. Ça veut dire que la personne, ce qu'on disait, la personne qui voudrait utiliser 1000, quand elle arrivera à 900, de façon mécanique, la vanne, elle s'arrête. Le compteur, il s'ouvre plus. Enfin, il n'y a plus d'eau. Voilà. Donc l'expérience qu'on a sur les périmètres qu'on a déjà mis en service avec ces méthodes-là, c'est qu'on accompagne aussi les agriculteurs, alors avec de la formation, à quel moment, à quel stade phénologique il faut apporter quelle quantité d'eau, etc. Et puis surtout, dans le programme, on va accompagner en fait, l'ouverture du quota au fur et à mesure de la saison d'irrigation pour faire en sorte qu'un agriculteur qui se tromperait, hop, il a appuyé trois fois sur la demande d'eau, si le système il est bête et méchant, vous m'avez demandé de l'eau, je vous balance de l'eau, que l'agriculteur ne se retrouve pas au mois d'avril en ayant consommé l'intégralité de son quota.
Ou s'il y a une coupure sur le réseau.
Oui, ou une coupure. Fuite. Alors là, dès qu'il y a des coupures ou des fuites, le système est intelligent, il détecte des surdébits, des sous-débits, il coupe tout, il envoie des alarmes, il dit au secours, il y a quelque chose qui ne correspondait pas à mon paramètre. Donc ce système aussi, il est intelligent, il est gagnant-gagnant pour tout le monde. Parce qu'on n'est pas uniquement là pour faire de la police et pour dire vous avez trop consommé, on arrête tout. C'est l'agriculteur, il a sur son smartphone une petite jauge qui lui dit vous êtes à tant de consommation de votre quota. L'objectif, c'est toute l'instrumentation qu'on a, on le met à disposition de l'agriculteur pour qu'il puisse faire ses choix et mettre en place ses objectifs de production et puis que lui reste maître de l'irrigation qu'il va apporter, mais dans la limite des quotas qu'on lui donne.
C'est la fin de ce zoom sur l'extension des réseaux d'irrigation 3SFM du côté des 8 communes du pays cœur d'Hérault, de Saint-Félix de Lodez à Montpérou, en passant par Saint-Saturnin de Lucian et Saint-Guiraud. Les premières mises en eau devraient arriver d'ici mars 2025. Les travaux, eux, seront finis l'année prochaine. C'est la fin de ce Zoom. Merci de nous écouter sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.